Radio Okapi.
Bonsoir à tous. La République démocratique du Congo a reconnu une nouvelle épidémie au virus Ebola il y a déjà 2 semaines dans la province du Kasaï. Et même si le vaccin pour le combattre est déjà arrivé sur place, cette pathologie a déjà fait au moins 20 personnes décédées à ce jour. Province de l'Ituri, ces derniers jours, plusieurs miliciens des groupes armés MAPI et Zaïre ont volontairement remis leurs armes aux autorités locales. Une dynamique saluée par la société civile qui voit le résultat combiné des opérations militaires de l'armée et des campagnes de sensibilisation. Une société civile qui rêve aussi de constater une reddition définitive des groupes armés dans toute l'Ituri. L'Observatoire congolais du développement durable dit se réjouir de voir les femmes de plus en plus à la tête de certaines institutions, voire entreprises publiques au pays, et réclame la concrétisation de la politique de l'autonomisation de la femme congolaise. Pour en parler, nous recevons dans ce journal Modeste Kakanda, coordonnateur de cette organisation. Le virus Ebola continue de faire parler de lui dans la zone de santé de Boulapé, dans la province du Kasaï, environ 2 semaines après la déclaration de l'épidémie par le ministère de la Santé. Plus de 20 morts sont déjà enregistrés, même si les doses de vaccins sont déjà arrivées sur place. Plus de détails avec Jean Gandou.
La zone de santé de Boulapé dans la province du Kasaï a enregistré 2 nouveaux cas de décès dus au virus Ebola. 5 des 7 cas suspects signalés à Boulapé sont confirmés positifs. Cette zone de santé a listé 58 nouveaux contacts, ce qui porte le nombre à 716. Depuis l'apparition de la maladie dans la région, elle a déjà touché 81 personnes, dont 28 décès, soit un total de létalité de 34,6%. Notons que 400 doses de vaccins sont arrivées sur place. Sachez que la vaccination commence par les agents de santé et les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés de la maladie à virus Ebola. Des doses supplémentaires seront prochainement livrées dans les localités touchées. Le vaccin est administré selon la stratégie de vaccination en anneau qui consiste à vacciner les personnes les plus exposées après un contact avec un patient confirmé. Il est également recommandé pour les professionnels de santé et les intervenants en première ligne susceptibles d'être en contact avec des patients atteint d'Ebola.
Plus de 2 millions d'enfants âgés de 0 à 5 à 9 mois ont été vaccinés contre la poliomyélite au Nord Kivu. Le coordonnateur du programme élargi de vaccination PEV en sigle dans cette province a présenté ces chiffres dans son rapport aux autorités. Ce rapport détaille le déroulement de la première campagne annuelle de vaccination qui s'est tenue la semaine dernière dans les zones de santé de la partie sud de la province du Nord Kivu. Une semaine avant, cette campagne a été menée en faveur des enfants des zones de santé de la partie nord de la province. Le docteur Batei salue la forte mobilisation communautaire qu'il estime être la clé du succès de cette campagne. Le point avec Rosalie Zawadi.
Du 28 au 30 août, puis du 4 au 6 septembre, le Nord Kivu a mené avec succès sa première campagne annuelle de vaccination contre la polio. Le docteur Hans Batei, coordonnateur du programme élargi des vaccinations PEV dans la province, salue les dépassements des attentes et félicite la forte mobilisation des parents qui a assuré les succès de cette initiative.
À ce jour, nous avons de bons résultats. Donc, nous avons vacciné plus de 100% d'enfants. Dans la partie nord également, on a vacciné tous les enfants, sauf les zones de Biena et Mangroujipa où on n'a pas atteint tous les enfants. Dans la partie sud, on a aussi quelques zones qui ont commencé en retard pour des raisons logistiques. Et nous pensons que les ratissages continuent. Nous avons vacciné plus de 2 millions d'enfants, ce qui est déjà une bonne chose. Nous sommes à plus de 116%. La population est en train de galoper, donc on a même recommandé un dénombrement.
Les docteurs Batei précisent que les enfants qui n'ont pas pu être vaccinés lors de cette campagne seront rattrapés grâce à la vaccination des routines. Concernant les parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants, des efforts de sensibilisation seront menés pour qu'ils comprennent l'importance de les protéger contre la polio. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, cette fois-ci, la zone de santé de Manono se mobilise pour la campagne de vaccination préventive contre la fièvre jaune. Cette campagne est prévue du 23 septembre au 2 octobre prochain. Annonce faite hier au cours d'un briefing de presse avec les médias locaux. Mais au fait, c'est quoi alors donc la fièvre jaune? Quels sont les symptômes et comment peut-on s'en guérir? Réponse avec Dr Patrice Sango, médecin chef de zone de santé de Manono. Il est au micro de Paulin Munanga.
La fièvre jaune est une maladie qui est virale. Cette maladie est transmise par des piqûres, des moustiques qu'on appelle les Aedes. Et ces moustiques qui sont infectés vont transmettre la maladie à l'homme à travers des piqûres. Et cette maladie se manifeste par des maux de tête, des courbatures, la fièvre. Pourquoi on l'appelle fièvre jaune? Parce qu'il y a la notion de la fièvre et la coloration jaunâtre des muqueuses. Cette maladie peut évoluer vers des complications cardiaques, des complications hépatiques en rapport avec le foie et des complications rénales en rapport avec les reins. C'est une maladie très grave, très mortelle. Il n'y a pas un traitement spécifique contre cette maladie. Les traitements, c'est juste un traitement symptomatique. Alors, le meilleur traitement, c'est la prévention. Et la prévention passe par la vaccination. Il y a un vaccin qu'on appelle VAA, vaccin anti-amarile.
Dans la province de l'Ituri, ces derniers jours, plusieurs miliciens des groupes armés Mapi et Zaïre ont volontairement remis leurs armes aux autorités locales. Une dynamique saluée par la société civile qui voit le résultat combiné des opérations militaires de l'armée et des campagnes de sensibilisation. Une société civile qui rêve de constater une reddition définitive des groupes armés dans toute l'Ituri. Jean-Claude Loki.
Attiré en périphérie de Bounia, un milicien du groupe armé Mapi s'est présenté de son plein gré chez le chef coutumier pour lui remettre son arme. Celui-ci a immédiatement alerté les autorités qui sont venues la récupérer. Même scénario à Dala, dans la chefferie de Mambisa. Cette fois, ce sont des éléments du groupe armé autodéfense qui ont déposé 7 fusils dont d'assaut avec ses munitions. Selon le responsable provincial intérimaire du PDDCS, ces gestes se multiplient parce que chaque jour prouvent que les opérations militaires et la sensibilisation portent leurs fruits. Le coordinateur de la société civile en Ituri invite les autres groupes armés à imiter ce bel exemple. Dieudonné Lossa.
Parce que c'est une bonne chose, parce que une arme remise constitue déjà une arme de moins qui tue la population, qui pille la population. Nous aimerions que cet acte se poursuive aussi dans le cas des autres groupes armés comme CODECO, FPIC, FRPI. Et Tchinatuna, parce qu'ils possèdent d'accord les armes, et nous savons les armes n'ont pas apporté la paix dans notre province.
Ces armes proviennent des zones récemment sécurisées par les FARDC. Les habitants de l'Ituri espèrent que la dynamique de reddition s'accélère afin de permettre la stabilisation de cette province qui a pris du retard à cause de la violence armée. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Entre-temps, la délégation du gouvernement de la RDC qui consulte au sud Kivu pour pacifier la ville d'Uvira poursuit son action sur place. Débutée jeudi, cette mission intervient au lendemain des manifestations qui ont fortement perturbé la situation sécuritaire sur le terrain. Ronelly Timbonera.
Cette mission a débuté par une rencontre avec le membre du conseil de sécurité de la ville, permettant au chef de la délégation de s'imprégner de la réalité sécuritaire dans cette partie de la province. Pour Jacquemin Chabani, la stabilité du chef-lieu provisoire constitue une priorité pour le chef de l'État.
Le président de la République est fortement engagé dans cette volonté-là de résoudre la crise sécuritaire que traverse le pays, principalement à travers les processus qui sont déjà engagés au niveau sous-régional, régional et international, avec la dynamique de Washington et de Doha.
Outre le membre du conseil de sécurité, des chefs coutumiers, des représentants de groupes alindo ainsi que de membres de la société civile ont été reçus tour à tour. Tous ont souligné la nécessité pour le gouvernement congolais de s'investir pleinement dans la résolution de problèmes sécuritaires du site Kivu. C'est ce qu'a rappelé Alphonse Mufariji du mouvement citoyen MCLA-RDC.
Nous avions insisté sur l'appui aux Wazalendo. Nous avions demandé qu'il y ait des recrutements au niveau de la PNC pour renforcer la sécurité des civils. là, nous avions aussi insisté sur leur mobilité, parce qu'aujourd'hui, les policiers, pour se déplacer, ça pose un problème pour aller intervenir dans un autre quartier.
Dans le cadre de cette même mission, la délégation gouvernementale s'est rendue auprès des familles endeuillées à la suite des manifestations survenues lundi dernier à Uvira pour leur témoigner soutien et compassion.
Dans le chapitre social, c'est aujourd'hui que se clôture la 8e édition du Forum des ministres et des chefs des divisions provinciales en charge du genre en République démocratique du Congo. Hier, ils ont été invités à présenter chacun dans sa province un état de lieu de cette situation et proposer des pistes de solutions y afférentes. Et ils l'ont fait, Esther Dalafina.
Dans la province du Haut-Katanga, par exemple, la ministre provinciale en charge du genre a salué la construction d'un deuxième centre intégré de la prise en charge des cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Valériane Oumba sollicite cependant la prise en charge des agents de son ministère par le gouvernement.
Vraiment, c'est un pari gagné pour la province du Haut-Katanga. La province a recommandé au gouvernement de multiplier les rencontres entre gouverneurs et les gouvernements centrales puissent revoir les problèmes des mécanisations des agents ou fonctionnaires à la division du genre. Beaucoup n'ont pas encore leur numéro matricule.
Dans la province du Haut-Lomami, le ministre provincial du genre, Adelar Oumba, est revenu sur la présence des groupes armés qui empêchent l'intégration du genre.
Les territoires de Malimbankoulou et celui de Bukama, c'est dans ces deux territoires où il y a même l'exploitation minière, les exploitations sexuelles des jeunes filles et même des enfants. Mais lorsqu'il y a des conflits armés, il y a des conséquences sur le plan genre. Nous devons d'abord avoir d'infrastructures capables d'accueillir tous ces cas et les traiter.
Signalons qu'à l'issue de ces travaux, une feuille de route sera validée pour faire avancer l'intégration du genre dans tous les domaines en RDC. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Ituri encore, les femmes de cette province ont désormais une nouvelle structure qui peut les aider à s'épanouir économiquement. En effet, depuis hier à Bounia, 300 micro-entrepreneuses se sont regroupées au sein d'un réseau de solidarité visant à promouvoir leurs activités économiques. La structure s'appelle Réseau des femmes actives à l'initiative personnelle, compte rendu ici de Isaac Raymond.
Ces femmes exercent les petits commerces, des petites activités génératrices de revenus telles que la pâtisserie, la coiffure ou la restauration, souvent avec un capital très limité qui ne leur permet pas de développer davantage leurs affaires. Grâce à ces réseaux, elles mettent désormais leurs moyens en commun pour acheter des marchandises dans les pays voisins en déléguant une représentante, une stratégie qui réduit considérablement les coûts de transport. D'autres pratiquent la ristourne pour accroître leur capital ou encore se cotisent afin de louer un local commercial. Jean-Claude Ipungu, coordonnateur de l'ONG Accra.
Nous avons commencé à les mettre ensemble pour qu'elles avancent, pour qu'avec les peu de moyens qu'elles ont là, on va leur donner des techniques pour développer leur business, leur montrer comment vendre, comment faire le marketing.
De son côté, la présidente de REFIP souligne que cette initiative redonne espoir à de nombreux entrepreneurs dont les activités avaient été suspendues faute de moyens suffisants pour subvenir aux besoins de leur ménage. Charlie Nyangoma.
Nous remercier d'abord cette organisation parce qu'il y a d'autres femmes peut-être après cette formation, elles n'exercent pas. Mais nous autres, on s'efforce à le faire. Nous savons avec leur tenace, leur encadrement et avec tout ça va aller.
Ces femmes font partie de quelques 4000 bénéficiaires d'une formation en entrepreneuriat dispensée il y a quelques mois à Bounia par l'ONG Transforme. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Le gouvernement de la RDC a finalement attribué plus de 60 numéros matricules aux personnels de l'Institut supérieur des statistiques, ISS en sigle, dans la province du Maniema, annonce faite par le directeur général de cette institution, action qui, selon ce responsable, permet de résoudre un sérieux problème social dans son institution. On écoute à ce sujet le chef des travaux, Issa Balinyembo, au micro de Florence Kiza.
En tant qu'établissement public, nous avons effectué un voyage officiel à Kinshasa où nous sommes revenus avec plus de 60 numéros matricules. Plus de 47 agents ont touché déjà leur prime institutionnelle. Et moi-même, je reviens avec moi plus de 67 numéros matricules et il y en aura encore 50 agents qui vont toucher leur salaire de base. Et il y a encore 8 chefs de travaux qui seront promis. Comme on a l'habitude de dire, un ventre grêle n'a point d'oreille. On devrait que passer en action pour ces grandes réalisations qui entrent communautaire, dans l'intérêt communautaire de toute institution. Alors, à la réaction de la recherche, nous avons pu signer les partenariats avec l'Institut pédagogique national auquel nos étudiants et nos personnels scientifiques vont commencer à poursuivre les cours de troisième cycle. D'ici là, l'UPEN va nous envoyer une délégation qui va lancer l'école doctorale à l'Institut supérieur de statistiques et aussi l'ISS Kinshasa, auquel nous avons encore signé un partenariat avec elle, de manière en sorte que l'ISS ait ses propres personnels académiques selon l'engagement et l'esprit de détermination que chaque personnel scientifique va manifester.
Actualité internationale.
Le président américain semble connaître le secret pour mettre un terme définitif à la guerre Russie-Ukraine et il le dit. Donald Trump estime que la guerre entre la Russie et l'Ukraine prendra fin si tous les pays de l'OTAN cessaient d'acheter du pétrole à la Russie et imposaient à la Chine des droits de douane de 50 voire 100% sur les achats du carburant russe. Le président américain l'a dit sur son compte social, faisant suite à une conférence téléphonique vendredi avec les ministres des Finances du G7, forum réunissant des démocraties industrialisées.
L'invité.
L'Observatoire congolais du développement durable, OCDD, en sigle, dit noter quelques avancées significatives, notamment l'accession des femmes à la tête de certaines institutions, voire entreprises publiques, mais il regrette cependant que les femmes payent le lourd tribut de la pauvreté, du changement climatique et des conflits armés, tels que mentionnés dans le récent rapport de cette organisation. Le coordonnateur national de l'Observatoire congolais du développement durable, Modeste Kakanda, s'entretient avec Jean-Marc Matouaki.
Monsieur Modeste, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Marc.
Vous venez de publier un rapport sur l'égalité des sexes en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui ressort de ces rapports?
Effectivement, ce rapport s'inscrit dans les suivis et examens de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, plus précisément de l'ODD-5, sur l'égalité des sexes. Vous savez, la question d'égalité des sexes est une question transversale. Donc, au-delà de l'ODD-5, ça influence ça des synergies avec presque l'ensemble des ODD.
Quels sont les résultats enregistrés durant cette enquête?
Ce qui ressort globalement de ces rapports, c'est que nous mettons en avant les résultats, les progrès que la RDC a enregistrés en ce qui concerne l'égalité entre les sexes, au-delà des progrès, mais aussi des défis que les pays font face par rapport à cette question-là. Et c'est une sorte d'outil de prise de décision pour les dirigeants. Il faudrait que nos dirigeants prennent des décisions, que les décisions soient basées sur des preuves fiables, sur des données probantes et pour plus d'efficacité, quoi. Donc, en quelque sorte, ce rapport vise à ça. Pour ce qui est des résultats enregistrés durant toute la période depuis l'adoption des ODD en 2015, c'est qu'il faut noter que la RDC fait face à des défis très critiques dans ce qui concerne l'égalité des sexes. Vous savez, les pays, il y a des domaines pour lesquels on a enregistré des progrès, notamment dans le domaine politique. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui a 32% de femmes. Ce sont des progrès. C'est là pour la première fois depuis l'indépendance de ce pays qu'on a 32% de femmes au gouvernement. C'est un progrès majeur à mettre en avant et nous avons mis ça en avant dans ces rapports. Il y a aussi beaucoup de progrès qu'on a enregistrés dans plusieurs domaines, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a encore beaucoup d'inégalités. Les femmes sont encore défavorisées dans beaucoup de secteurs, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit des questions d'emploi. Il ressort globalement de grandes inégalités de sexe. Par exemple, c'est pour illustration, il faudra par exemple voir aux examens d'État aujourd'hui, il y a moins de quatre enfants sur 10 sont des femmes à l'examen d'État, finalistes plutôt, examen d'État. Il y a des questions, par exemple, des questions d'abandon scolaire. Beaucoup de filles abandonnent l'école par rapport aux garçons. Il y a aussi des questions, par exemple, d'accès aux services sociaux de base, qui créent aussi beaucoup d'inégalités. Par exemple, pour ce qui est de l'accès à l'eau, on a démontré que 8 enfants sur 10 qui sont chargés de chercher de l'eau dans les ménages sont les filles, ce qui crée des disparités entre les sexes. Et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs résultats qui ressortent de ces rapports et qui devront servir dans l'élaboration des politiques publiques afin d'endiguer les inégalités entre les sexes. Parce que ces inégalités, en fait, renforcent le caractère sexo-spécifique de la pauvreté et ce qui nuit au développement durable de la République démocratique du Congo. Il y a des avancées, mais les défis sont encore critiques. Il faudra mettre en place de bonnes politiques, des politiques innovantes, pour apporter, pour endiguer, pour apporter des solutions durables sur ces questions d'inégalité de sexe, pour faire en sorte que les pays s'inscrivent dans la trajectoire des ODD parce qu'aujourd'hui, on n'a que 5 ans pour atteindre les objectifs du climat durable. Et au regard des résultats qui ressortent de ces rapports, il y a encore beaucoup de défis, beaucoup de questions pour lesquelles l'attention devait être portée pour enregistrer des progrès. Et j'invite toutes les personnes et puis le développement des RLC de s'approprier ces rapports, parce qu'il est aujourd'hui démontré que si les pays n'arrivent pas à exploiter les potentiels économiques, sociaux des femmes, on ne saura pas enregistrer des progrès pour atteindre les ODD et donc un développement inclusif et qui ne laisse personne pour compte.
Quels sont selon vous les obstacles qui empêchent la République démocratique du Congo de promouvoir une politique active et pérenne du respect du genre et de la parité?
Pour ce qui est des obstacles, les obstacles sont nombreux. D'abord, il y a un obstacle le plus critique, c'est le financement. Mettre en place des politiques publiques pro-égalité, si je peux appeler comme ça, requiert des ressources significatives. Or, le pays aujourd'hui n'a pas toujours des ressources à la hauteur des besoins, parfois urgents et conquérants dans plusieurs domaines. Donc, il faut mobiliser des ressources à la fois nationales, mais aussi internationales pour répondre à des questions d'égalité entre les sexes. Parfois, quand on parle d'égalité entre les sexes, les gens croient toujours que c'est dans les domaines politiques, mais c'est dans les domaines de la santé, de l'alphabétisation, de l'éducation, et dans le domaine de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, il est montré que les femmes, par exemple, dans l'agriculture, avec les réchauffements climatiques, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus impactées que toute autre personne.
Monsieur Modeste Kakanda, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci.